Bien, bonjour à tous. Alors, on nous a mis pour le séminaire dans cette salle qui est un peu surdimensionnée pour le séminaire. Il y a l'une des séances qui aura lieu toutefois dans l'amphi Alvax. Et j'avoue, je ne me rappelle plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante. Ça sera affiché en toute hypothèse. Je voulais tout d'abord remercier mes collègues que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure, Madame le professeur Samantha Besson de l'Université de Fribourg et le professeur Mustapha Mekki d'avoir bien voulu participer à ce séminaire et même l'inaugurer. Je vais en présenter l'argument rapidement. Nous allons procéder en deux temps et en prenant vraiment le temps de l'exposition et de la discussion, pas les exposés de 10 minutes. Là, on va prendre vraiment le temps nécessaire. Donc, on va avoir une première séquence autour des questions de droit international abordées par Mme Besson et ensuite, du point de vue du droit civil, du droit des contrats, par M. Mekki. Et on fera une petite pause. Le droit à la pause étant respecté ici. Alors, ce séminaire, donc, qui va occuper 4 mardis du mois de mars, a pour intitulé « La responsabilité solidaire » et il s'inscrit dans le fil du colloque que nous avions tenu ici même en juin dernier et dont les travaux, dont les actes ont été publiés aux presses universitaires de France sous le titre « Prendre la responsabilité au sérieux ». Et ce colloque mettait en évidence les nouveaux problèmes de responsabilité qui sont liés aux nouvelles formes d'organisation du pouvoir, notamment dans la sphère économique, mais aussi dans les relations internationales. Et l'un des problèmes juridiques majeurs posés par l'essor à ces différents niveaux de liens d'allégeance, c'est la possibilité que ces liens ouvrent à une partie dominante de diriger la conduite d'autrui sans avoir pour autant à répondre des dommages causés par celle-ci. Et cela est particulièrement vrai des dirigeants des entreprises transnationales qui peuvent utiliser la personnalité des sociétés qu'ils contrôlent comme autant de pare-feux qui les mettent à l'abri de toute mise en cause de leurs responsabilités. Cela jusqu'à un certain point. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent que nous avions évoqué il y a 2 ans l'affaire du Rana Plaza, par exemple, dans laquelle des donneurs d'ordre, qui étaient des grandes firmes européennes et américaines, ont dû, sous une certaine pression médiatique, engager une certaine responsabilité vis-à-vis des travailleurs et des travailleuses qui avaient été victimes de la violation d'un droit fondamental à la sécurité physique au Bangladesh. Donc, du point de vue juridique, c'est la responsabilité solidaire qui apparaît comme un outil qui permet de percer cet écran de la personnalité morale et d'obliger ainsi ceux qui ont le pouvoir économique de répondre des conséquences sociales et environnementales de leurs décisions. Alors, je tiens à préciser que la notion de responsabilité solidaire ici sera employée dans un sens assez large et pas seulement dans le sens technique précis que lui donne le Code civil, puisque la responsabilité solidaire, ou in solidum, est en droit civil un mécanisme apparu en droit romain qui permet à la victime d'un dommage d'en demander réparation intégrale à l'un quelconque des co-responsables, lequel peut alors exercer une action récursoire contre les autres, qui sont ainsi appelés à contribuer chacun au prorata de leur responsabilité. Donc ce noyau dur de la notion de responsabilité solidaire ne sera pas écarté, mais au-delà de cette définition précise, on assiste en droit contemporain à l'essor d'autres formes de solidarité entre débiteurs qui sont généralement moins avantageuses pour la victime. Bon, un exemple très connu des juristes, c'est la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur ce sujet, la Cour de justice de l'Union européenne fait prévaloir la responsabilité du producteur, c'est-à-dire celui qui a mis un produit en circulation, la victime ne pouvant obtenir réparation de son fournisseur qu'à défaut de désignation par celui-ci de son propre fournisseur ou de son producteur. Il n'en reste pas moins qu'une forme atténuée de solidarité existe entre les professionnels impliqués dans la chaîne de distribution d'un produit qui se révélera dangereux. Et il en va de même des dispositions aujourd'hui applicables aux chaînes de sous-traitance en droit européen, le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct pouvant, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable du respect de ses droits par le travailleur détaché. Alors, ce renouveau de la responsabilité solidaire, ainsi entendu au sens large, et alors j'allume une lampe rouge parce que ça c'est le champ découvert par le séminaire, de la possible mise en cause de la responsabilité d'un sujet de droit exerçant un contrôle sur l'activité d'un autre, ce renouveau se manifeste dans les domaines les plus divers, en matière de travail illégal, en matière de licenciement économique, en matière d'infraction aux règles de santé et de sécurité, d'infraction aux règles de la concurrence, de corruption ou de fraude fiscale, de pollution marine, de remise en état écologique des sites industriels. Et nous aurons l'occasion, au cours des séances du séminaire, d'évoquer certaines de ces hypothèses. L'idée avait été avancée en 2005 dans un projet de réforme du droit civil qui était le projet Catala, c'est un projet de réforme du droit des obligations, de rendre ceux qui contrôlent une activité économique responsables des dommages causés par cette activité. Il était prévu d'introduire dans le Code civil une disposition qui, en termes généraux, introduirait cette responsabilité. Si vous contrôlez une activité économique, vous devez répondre des dommages liés à cette activité. Cette proposition a été enterrée par le Sénat. À l'époque, vous allez voir que le Sénat joue un rôle un peu répétitif sur ce débat, mais elle a ressurgi dans le sillage de la catastrophe du Rana Plaza, tout à l'heure évoquée. Donc une proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a ainsi vu le jour en 2013. Elle a été rejetée par la commission des lois pour des motifs d'ordre économique, mais reprise en 2015 sous une forme édulcorée. Elle est actuellement en cours d'examen donc au Parlement. Et elle prévoit d'obliger les sociétés françaises employant 1 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à mettre en œuvre un plan de vigilance qui serait rendu public pour prévenir, je cite, les atteintes aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, aux risques de dommages corporels ou environnementaux graves, aux risques sanitaires, ainsi qu'à la corruption passive et active dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, y compris à l'étranger. Et dans le cas où l'entreprise ne respecterait pas ses obligations, sa responsabilité pourrait être engagée devant un tribunal si les victimes du dommage apportent la preuve qu'elle a manqué de vigilance, avec des amendes civiles pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. Alors, nous avons eu l'occasion, à la fois dans le cours et dans le colloque de juin dernier, de retracer la généalogie de cette notion de vigilance, de faire les rapprochements aussi avec les notions comparables en common law. Ce projet, actuellement donc en cours de discussion d'introduction à un devoir de vigilance, a été soutenu par quelques grandes entreprises françaises, par exemple par des groupes tels que Veolia ou Bolloré. En revanche, elle est combattue avec beaucoup de détermination par les organisations patronales et par l'opposition parlementaire qui argue contre le risque qu'il y aurait à faire peser sur les entreprises et les groupes français les obligations qui ne pèsent pas sur leurs concurrents étrangers et à ainsi entraver la compétitivité de ces entreprises. Et donc ces opposants à cette proposition de loi défendent l'idée selon laquelle la responsabilité sociale des entreprises devrait rester dans l'orbe des engagements volontaires de ce que j'avais pu appeler dans le cours le renouveau du paternalisme à l'échelle internationale. C'est-à-dire de la même façon que les entreprises au XIXe siècle, des patrons bénévolants animés par la foi ou la charité prenaient des engagements qui n'avaient pas une portée juridique. On voit ressurgir ça sous l'espèce de la responsabilité sociale et environnementale. Et donc les opposants à une juridicisation de la responsabilité plaident pour maintenir ces mécanismes de responsabilité dans cette zone de, si on ne peut pas dire vraiment de non-droit, certains disent de droit mou, enfin en tout cas dans la sphère des engagements volontaires sans sanction juridique. C'est une voie d'ailleurs qui est promue aussi par, à l'échelle internationale par la Banque mondiale par exemple, qui par la voie de son bras financier qui est l'International Finance Corporation, la société financière internationale, incite elle aussi à ce type d'engagement lorsqu'un fournisseur de améliore des points environnementaux ou sociaux, elle peut obtenir des facilités de crédit avec des taux attractifs. Donc c'est une politique plutôt de carotte que de bâton. Alors ce texte ainsi controversé a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 mars 2015, mais repoussé sans examen par le Sénat le 18 novembre 2015, le 18 novembre dernier. Et certains s'inquiètent de le voir purement et simplement enterré sous la pression, je le répète, des organisations représentatives des entreprises. S'il devait être adopté, il placerait la France à la tête d'un mouvement européen en matière d'obligation de vigilance des entreprises transnationales. Et en effet, la question commence à surgir au plan européen. Un projet de rapport sur le dumping social a été déposé devant le Parlement européen le 7 janvier 2016, qui devrait être soumis à l'Assemblée plénière en mai prochain. Et deux de ces dispositions concernent notre sujet. La première, je cite, appelle la Commission, il s'agit de la Commission européenne, à proposer un instrument légal pour traiter des dimensions transfrontalières de la sous-traitance étendant la responsabilité solidaire, donc vous voyez que la notion de responsabilité solidaire apparaît bien, en tout cas dans des propositions au niveau du Parlement européen, donc pour traiter des dimensions transfrontalières de la sous-traitance étendant la responsabilité solidaire du donneur d'ordre dans tous les secteurs économiques et sur toute la chaîne de sous-traitance. Ça, c'est le premier élément de cette proposition. Et la seconde, consiste à demander à la Commission, je cite, de proposer un véhicule législatif, bon, c'est une notion qui transporte, adapté, donc tout terrain, prévoyant pour les entreprises un devoir de vigilance, engageant leurs responsabilités tant à l'égard de leurs filiales que de leurs sous-traitants, ayant une activité dans un pays tiers, pour prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme, de corruption, de dommages corporels ou environnementaux graves, et de violation des conventions de l'OIT. Ce sont les paragraphes 27 et 28 de cette proposition. Alors, de la coupe aux lèvres, il y a une distance particulièrement grande, surtout s'agissant des propositions émanant du Parlement européen. Donc on peut penser que les oppositions qui se font jour dans le débat français sur le devoir de vigilance ne manqueront pas d'apparaître aussi dans les débats européens. Mais cela traduit malgré tout l'émergence de cette notion de responsabilité solidaire et la nécessité d'y réfléchir. D'ailleurs, l'obligation de diligence ou de vigilance est également consacrée par la directive européenne sur les informations non financières, qui est en cours de transposition en droit français et qui prévoit, parmi les informations devant être rendues publiques, celles relatives, je cite, aux procédures de diligence raisonnables mises en œuvre. Et donc cette résurgence d'une certaine solidarité en droit de la responsabilité pourrait aussi concerner les organisations financières internationales, ainsi que le montre la mise en cause récente de la responsabilité du Fonds monétaire international dans l'épidémie d'Ebola, qui a révélé les conséquences mortifères du démantèlement des infrastructures sanitaires promues par cette organisation dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Il y a des exemples encore plus récents de cette sorte de schizophrénie de l'ordre juridique international. La Cour de justice de l'Union vient de condamner en décembre, je n'ai plus la date exacte en tête, excusez-moi, le gouvernement grec à la demande de la Commission européenne, pour non-respect de la directive sur les maxima de temps de travail. Il s'agissait d'un contentieux concernant les personnels hospitaliers. Alors, l'historique est le suivant. La Troïka impose à la Grèce, dans le cadre des mesures de restructuration financière, une baisse drastique des dépenses hospitalières. Donc, un tiers environ des personnels ont été licenciés. Dans le même temps, il y a eu une augmentation considérable de la fréquentation des services d'urgence, puisqu'il y a une paupérisation de la population qui ne peut plus accéder à la médecine de ville. Donc le résultat, c'est que les personnels hospitaliers, médecins, infirmières, etc., se trouvent face à une charge de travail énorme et qu'ils ont dépassé de toutes les sortes possibles les maxima de travail prévus par la directive. Et c'est donc la Commission qui, elle-même, est à l'origine, qui est membre de la Troïka, qui a promu cette diminution drastique des ressources, et notamment des ressources humaines dans le secteur sanitaire, qui ensuite demande à ce qu'on condamne la Grèce pour les conséquences de ce qu'elle a elle-même provoqué. Donc, on est face à des systèmes qu'on pourrait dire plus ou moins irresponsables, et c'est pourquoi il semblait utile de s'interroger aussi sur la responsabilité, éventuellement, des États et des institutions internationales, sujet que va aborder ce matin Madame Besson. Bon, dans le domaine financier, diverses dispositions de droit américain visent à rendre les personnes physiques responsables des conséquences des fautes commises par les sociétés commerciales qu'elles dirigent. Alors ça, c'est mieux connu. Par exemple, la loi Sarbanes-Oxley, qui a été adoptée par les États-Unis en 2002 à la suite de l'affaire Enron, et qui a réactivé le vieux fondement religieux de la vérité des comptes en imposant leur certification sous serment par les présidents de sociétés cotées et leurs directeurs financiers, et les dirigeants de sociétés étrangères cotées aux États-Unis sont eux aussi soumis à cette obligation qui est assortie de lourdes sanctions pénales. Donc là, on a un exemple d'un dispositif qui, d'emblée, se veut extraterritorial, en réalité. Bon, nous aurons aussi l'occasion, au cours du séminaire, de rapprocher cet essor de la solidarité en droit de la responsabilité de celui de techniques différentes qui, tels les produits dérivés en matière financière, permettent de transmettre un risque associé à la valeur d'une chose sans transmettre la chose elle-même. C'est ça le propre des produits dérivés. Et M. Gaudemet, qui a fait une thèse remarquable sur ce sujet, viendra nous en parler. Donc le séminaire va avoir pour objet d'explorer ces différentes facettes de la distribution des responsabilités face aux risques sociaux, financiers, environnementaux. Et nous allons donc commencer sans plus tarder en abordant les questions de responsabilité internationale. Voilà.